Alors, comme promis, notre prélude à mai 68, puisque nous avons l'intention de faire encore, de consacrer encore une heure la semaine prochaine à qu'est-ce que faisaient les femmes en mai 68. Parce que ces temps, dans tous les médias possibles et imaginables, radio, journaux, etc., on s'étale sur mai 68. Eh bien, nous, on s'est bien sûr posé la question, mais qu'est-ce que les femmes faisaient, quelle était leur place dans le mouvement de mai 68 à Genève et ailleurs. Alors aujourd'hui, nous recevons Eliane Perrin. Eliane Perrin qui a été déjà beaucoup sollicitée pour raconter sa vie en mai 68, n'est-ce pas Eliane?
Oui.
Mais on va essayer avec elle d'échanger quelques souvenirs plus vivants que ceux qu'on a peut-être pas toujours très bien transmis dans les journaux, parce que je crois que c'était pas toujours fantastique comment ça a été retraduit dans les journaux, ce que tu disais, non?
Ah, ben, on se retrouve toujours avec une vision partielle de ce que l'autre a compris de ce qu'on dit. C'est les règles du jeu, mais c'est vrai qu'on se reconnaît pas toujours.
Alors là, aujourd'hui, pas de possibilité de trahison, parce qu'on est là en direct, donc ce qui est dit est dit, et on espère que tout le monde arrivera à dire ce qu'il veut. Alda, qui d'habitude est une animatrice avec à remue-ménage avec nous, aujourd'hui se trouve dans la situation particulière d'être de l'autre côté du micro en tant que participante à Mai 68. Elle sera avec Eliane, elle échangera ses souvenirs de Mai 68 avec Eliane Perrin. Alors bien sûr, la première chose qui m'intéressait de leur demander, c'était en fait comment on se fait entraîner comme ça dans un mouvement comme celui de mai 68 et en plus à Genève. Parce que Genève, c'était pas Paris. Donc comment ça s'est passé pour vous? Comment vous vous êtes sentis tirés dans cette histoire en mai 68?
Je crois qu'on a des histoires tout à fait différentes de par l'endroit d'où on venait. Moi je suis arrivée à Genève de la Chaux-de-Fonds pour faire mes études. J'ai été horrifiée par cette ville. J'ai eu c'est un des plus grands rejets que j'ai ressenti de ma vie parce que elle sue, elle frique. Je me souviens d'être sortie du train à la gare et d'être descendue cette avenue du Mont-Blanc avec des bijouteries, je n'avais jamais vu autant de ma vie, et des voitures, et des fringues, et des... Enfin, c'était vraiment quelque chose d'ahurissant pour moi. Alors, je l'ai rejeté très violemment. L'université n'a pas été mieux.
Donc, tu venais à Genève pour aller à l'université.
Voilà.
Étudier en quelle fac, juste pour qu'on se dise les milieux d'origine.
J'ai commencé en lettres où j'ai tenu 15 jours, alors que j'étais très décidée, c'est-à-dire je savais que je voulais devenir prof d'histoire. Je n'avais pas de problème d'orientation. Et puis, la faculté des lettres était insupportable pour moi, pour différentes raisons. D'abord, parce que tous les cours qui m'intéressaient, il fallait que j'attende 4 ans pour les suivre. Et puis les autres, je me souviens d'un cours sur un poème de Baudelaire, où on a décortiqué le poème de telle sorte que, au début, je l'aimais, et après 2 heures de décortiquage, je ne pouvais plus le supporter. Alors, je me suis dit que ça, je ne supporterais pas 4 ans. Et puis que ce que j'aimais, je n'allais pas le laisser démolir. Alors là, j'ai eu un très énorme problème. Je me sentais affreusement coupable parce que mes parents me donnaient un peu d'argent pour faire des études et puis je n'arrivais pas à rester là. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais faire? Et puis j'ai fait du tourisme après avoir eu pendant 4 jours 42 fièvres avec rien du tout. Je regardais le plafond et je me disais quoi faire, quoi faire. Et puis, en faisant du tourisme, j'avais éliminé les facultés langues ou les insupportables, médecine et droit. Alors, je suis allée voir ailleurs. Et puis, je suis restée en sciences économiques et sociales parce qu'au moins, ces cours-là, l'économie, j'avais aucune idée de ce que c'était. La sociologie non plus. Ah, je me suis dit que j'apprendrais quand même malgré tout quelque chose. Et je suis restée là. Et alors... Mais l'université, c'était de nouveau le fric, c'est-à-dire qu'il y avait des filles en manteau de fourrure. Et moi, j'arrivais avec un blue jean et puis un parka pour l'hiver, comme on portait à la Chaux-de-Fonds. Alors j'étais complètement dans les choux, je ne me sentais pas de rester là. Et j'ai appris qu'il y avait un syndicat universitaire. Alors je l'ai cherché et je l'ai trouvé, ce qui fait que j'ai milité... Là, je suis arrivée en 64, donc de 64 à 68, je militais dans l'Action syndicale universitaire, l'ASU de l'époque. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai adhéré au Parti du Travail, ce que mon père m'avait interdit de faire avant 20 ans. Alors, j'ai fêté mes 20 ans comme ça. Pas tellement parce que j'y croyais au fond du fond, je veux dire parce que j'étais d'accord avec tout, mais parce que c'était la seule minorité qui détonnait un peu, la voix qui détonnait dans cet univers politique. Et puis voilà, bon, d'ailleurs ils m'ont reconnue assez vite, je me suis tout de suite fait traiter d'anarchiste, etc. Et j'ai tenu 2 ans, un peu plus de 2 ans.
Dans le syndicat à l'université, on défendait quoi ?
Alors, on se battait pour la démocratisation des études. Alors, bon, les fondements, c'était l'idée qu'à l'université était représentative à l'inverse de la société, c'est-à-dire qu'il y avait 80% des enfants des classes bourgeoises qui faisaient des études et 20% des classes moyennes et ouvrières. Les ouvriers en arrivaient à 6 ou 8% comme
oui,
ça.
Tout juste.
Voilà, alors l'idée c'était que c'était scandaleux qu'après tout les uns n'étaient pas plus bêtes que les autres, mais qu'il devait bien se passer quelque chose pour que les uns se fassent toujours exclure avant et les autres non, mais y arrivent même à coup de leçons particulières et de forcing familial. Alors, c'est à peu près cette problématique-là. Et puis, aussi l'idée que l'université éliminait toute une série de gens par le fait qu'elle était de plus en plus coupée de la vie telle qu'elle était, c'est-à-dire de la vie pratique, du travail, et y compris dans ce pourquoi elle formait. Alors on avait une sensation d'incroyable décalage que d'ailleurs une partie du patronat avait aussi, hein, ce qui leur faisait dire qu'un universitaire, il sortait,
il savait rien faire,
il était inutile. Je veux dire, c'était fallait recommencer tout à zéro pour qu'il sache vraiment faire quelque chose dans la vie. Et en somme, on partageait ce point de vue avec une partie du patronat de l'industrie. Hein, il n'y avait que les professions libérales, finalement, avocats, etc., qui continuaient à défendre l'université parce qu'elle préparait vraiment à ce qu'ils attendaient des gens.
Puis l'ASU, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'étudiants qui y participaient ?
Non, c'était un très petit groupe. Ça variait entre 30 et 40. Mais c'était un petit groupe très, très actif où on s'est présenté aux élections de l'Association Générale des Étudiants. On a pris l'Association Générale des Étudiants, on était majoritaire. Et puis, bon, il y avait une espèce de parlement universitaire. On présentait des candidats et on a pris la majorité. Et puis là, on a commencé à appliquer notre programme, qui est un programme de lutte pour la réforme de l'enseignement, la démocratisation des études. Bon, alors ça allait jusqu'à exiger des experts de plus à des examens où on savait qu'ils se passaient de manière particulièrement injuste. Enfin, il y avait toutes sortes de choses comme ça, de conflits comme ça. Mais ça a consisté à, disons, rompre avec le corporatisme universitaire. C'était essentiellement ça, la ligne. Et c'était dire que l'université appartenait à l'ensemble de la société et qu'il fallait qu'elle s'ouvre sur la société. Et on défendait plus, par exemple, on était contre une cité universitaire parce que on disait il faut des logements pour les jeunes.
Mais
ils manquent tous de logements. Les apprentis trouvent pas de chambres. Il faut pas un ghetto pour les étudiants. Il faut des chambres pour les jeunes et les célibataires parce que c'est ce qu'il y avait pas. Et des chambres indépendantes parce que quand je suis arrivée, bon, la plupart en habitaient chez des dames. Et puis qui on devait pas rentrer, on devait pas rentrer tard, on devait amener personne, on n'avait pas le droit d'utiliser la cuisine, donc on pouvait pas se faire un café, on se faisait foutre dehors si on avait un de ces machins, une résistance électrique à chauffer de l'eau pour se faire du café en douce, enfin etc. Il fallait éteindre l'électricité parce que la facture, donc bon, on pouvait pas lire la nuit, on pouvait pas écouter la radio, enfin des tas de choses qui ont l'air petites, mais qui sont extraordinairement pesantes sur la vie des jeunes. Alors disons, toute l'action était toujours d'essayer de décorporatiser et de défendre, relier bon, le logement à l'ensemble du problème du logement, le problème de l'université à l'ensemble du problème des études, de l'école primaire à l'université, c'est-à-dire toute la filière. Mmh. C'est comme ça, quoi. Et puis, avec une série quand même par moments, de batailles ponctuelles sur des choses plus politiques. Alors, qui était par exemple Franco. Il y a eu d'État, on a interrompu les cours, on avait immobilisé l'université toute une journée, avec l'accord d'un certain nombre de professeurs qui avaient modifié le sujet de leur cours et qui parlaient du franquisme, de ce que c'était, etc. Pendant toute une journée, on avait mis une banderole sur l'université, ce qui avait fait vraiment scandale pour que ça se voie dehors, c'est-à-dire qu'on n'était jamais... La grande famille universitaire, pour nous, n'existait pas du tout. Et alors, on appelait les autres à venir nous rejoindre. Et puis, parler du franquisme et de ce qui se passait en Espagne.
Et qu'est-ce qui a fait, alors, petit à petit, que ce type de pratique, ce type de militantisme est un jour devenu le mouvement de mai 68 ?
Bah, le mouvement de mai 68, il est sorti de plusieurs choses. Hein. On a eu, l'armée nous a offert une occasion en or, puisque Depuis je ne sais plus combien d'années, on n'avait jamais osé faire un défilé militaire à Genève, parce que Genève était connue pour être antimilitariste, etc. Donc par prudence, ils les faisaient ailleurs. Et voilà pas qu'en 68, ils décident que ça va être l'année de Genève. Et on va remettre ça. Alors ça, bon, ça a mis en ébullition des milieux qui débordaient largement l'université. Et il y a une convocation à une manifestation qui était le 13 mai, je ne me rappelle plus du jour exactement, contre les journées militaires où il y avait tous les syndicats, où il y avait les jeunesses du Parti du Travail, les jeunesses socialistes, et, enfin une liste incroyable de petites organisations ou de grandes. Et alors l'aubaine était fantastique, parce que comme il y avait un mouvement très violent pour la démocratisation des études, la loi était passée, mais les gens ne touchaient pas un sou à l'université, et ça commençait vraiment à barder, et l'université était mobilisée. Et voilà qu'il y a les journées militaires, la manifestation contre, on y est tous allés, et là ça a été vraiment le plus grand moment d'émotion, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de gens. Je crois, alors,
et autant de flics.
Et autant de flics, évidemment. Mais personne n'a pas... Alors, c'est vrai que quand on touche à l'armée, la police sort immédiatement.
Ça, en Suisse.
Ça manque pas. Mais on ne l'avait pas anticipé. Ça, je crois que personne, ni ceux qui ont convoqué, ni avaient anticipé. Bon, il faut dire qu'il faisait beau. Je crois que c'était très avant. Moi, j'ai le souvenir que c'était un des premiers jours où il y avait du soleil, puis l'air était doux. Et puis, avec toute cette excitation, on sent le printemps qui arrive...
Ah bah quand même, hein. Mais printemps 68, c'est vrai que ça pouvait qu'encourager les gens à enfin faire éclater tout ce qu'ils avaient dans la tête. Est-ce que tu as été influencée, vous avez été influencée dans l'ensemble, par ce qui se passait au même moment à Paris?
Alors, bon, on suivait évidemment ce qui se passait au même moment à Paris. Faut dire aussi que avant, on n'était pas... Enfin, alors, quand je dis « on », ça veut dire, disons, les gens qui militaient dans l'action syndicale universitaire n'étaient pas très étonnés, parce qu'on avait des relations avec des groupes à l'étranger. Et on avait des relations, on avait l'année précédente, organisé un congrès, comment on appelait ça, des minorités syndicales européennes. Ça s'appelait comme ça. Et il y avait, était venu... les minorités qui étaient les groupes d'études de lettres, qui étaient une minorité dite de gauche dans l'UNEF en France, et qui avaient, c'était en somme que des groupements universitaires, mais qui avaient une position anticorporatiste. Ce qui nous reliait, c'était ça. Ce qui nous reliait aussi, c'était la guerre du Vietnam, et notre opposition à la guerre du Vietnam, notre opposition au franquisme. Et il y avait eu alors des gens qui étaient venus de France, des gens de Berlin, de la Freie Université de Berlin, des Italiens, il y avait des Portugais en exil qui étaient venus, et il y avait des Anglais, et il y avait quelques Américains qui étaient venus des campus. Donc on savait, nous, que ça bougeait ailleurs, mais on ne savait pas si ça allait péter et quand ça allait péter. Enfin, on espérait que ça allait péter, ce qui fait que quand on a vu que ça pétait, on n'était pas très étonnés, et on savait que ça existait déjà, que des choses se passaient un peu du même type, avec cette espèce de mélange entre l'international, la révolte vis-à-vis de la guerre du Vietnam qui nous reliait en somme universellement, et puis l'université bourgeoise. En 68, nous, on a vraiment cru qu'on allait la raser, hein, qu'il n'y aurait plus qu'un grand trou à la place, puis des petites fleurs, et puis que c'était fini avec ce vieux machin. C'était vraiment... On a cru que ça, en tout cas, on ne la reverrait plus jamais telle qu'elle était.
Alors avant qu'Alda nous raconte comment elle s'est trouvée embrigadée dans mai 68, on va peut-être mettre une petite musique de l'époque.
Pas de panique, s'il vous plaît.
Reste avec moi.
Doucement.
Pas de panique. Bon, écoute, restons ensemble, c'est tout. Allez, salon.
Donc c'était une petite musique de rue, comme vous l'avez sûrement reconnu, enregistrée en tout direct dans les rues parisiennes en mai 68. Alors Alda, toi tu as une autre histoire qu'Eliane, tu venais encore d'ailleurs.
Oui, partiellement différente, mais disons moi aussi je suis arrivée d'ailleurs, je suis arrivée du Tessin, donc dans une ville aussi qui pue le fric, quelque chose de la distance et la froideur par rapport au rapport qu'on avait entre étudiants, entre les gens au Tessin, donc moi j'étais glacée en arrivant aussi, j'étais bloquée, vraiment j'ai été bloquée, ça m'a fait un choc aussi cette ville que j'imaginais toute différente, j'imaginais vivante, brillante, etc. Bon. Alors moi je suis arrivée et puis moi je savais ce que j'allais faire à l'Uni, je savais, je suis venue exprès à Genève pour faire la sociologie, mais dire que je savais ce que c'était la sociologie, ce serait m'avancer un peu trop. Disons, c'était une idée qui était dans l'air, hein, que j'ai captée parce que j'avais des antennes, c'était l'air du temps, je sais pas, j'avais envie de faire la sociologie, mais effectivement en regardant l'enseignement qu'on avait reçu au collège, au lycée, ça s'appelait le lycée, au collège au Tessin, c'était un enseignement mais d'un sclérosé. Alors tout ce que j'ai pu contester dans l'enseignement à l'université de Genève, c'était quelque chose que je transportais en moi depuis le Tessin, c'est-à-dire cette sclérose, cette non-ouverture, cet enseignement vieux, hein, coupé de la vie, coupé du monde, et puis aussi politiquement marqué, dans le sens que si on est coupé de la vie, ça veut dire que c'est quelque chose de très réactionnaire, et nous au Tessin, c'est vrai, on était. Moi, par exemple, je me rappelle, je savais à peine ce que c'était le racisme. C'est-à-dire, on avait fait sur les examens du bac, c'était sur le racisme. Ben, je me creusais la tête pour trouver des idées à moi parce que j'avais vraiment la peine.
C'est-à-dire, on discutait pas.
C'était sauf dans les. Je me rappelle, j'avais quelques camarades d'école qui étaient fils de communistes, ou bien dans la mouvance, parce que leur copain était fils d'un communiste, qui arrivait au collège avec l'Unita, c'est-à-dire le journal du Parti communiste sous le bras, et puis qui effectivement, ils étaient deux ou trois, et puis ils n'avaient aucune... c'était les seuls, disons. Hein. Et moi, je suis arrivée vraiment... et puis, j'ai fait la sociologie. Je voulais faire la sociologie pour aller en Afrique. C'était pas ça, mon projet. Je voulais aller en Afrique. Je ne sais pas très bien si c'était pour aider les pauvres Africains qui meurent de faim ou si c'était pour aller étudier l'Afrique. Je n'ai jamais très bien compris ce que je voulais. Mais disons, c'était pour aller en Afrique. Je voulais faire la sociologie. Et en fait, je me suis retrouvée effectivement dans la faculté et dans la licence qui a un peu marqué la révolte étudiante. C'est-à-dire, c'est de l'art. Effectivement, quand je relis encore maintenant les livres sur ceux qui ont pris la parole, qui ont fait quelque chose en 68, disons, qui ont émergé, qui sont devenus un peu des vedettes, c'est tous des gens qui étaient plus ou moins autour de ces facultés. Et effectivement, la faculté de droit, par exemple, était une connotation de droite. Elle l'était effectivement parce que c'était une faculté qui était, comme disait Eliane tout à l'heure, elle était encore très bien insérée dans la société. Tandis que les sociologues, c'était par hasard ceux qui avaient un peu d'inquiétude et de révolte déjà en eux, qui étaient allés là pour chercher quelque chose. Et puis moi, je suis arrivée en automne 67, donc j'ai vite fait le tour de la faculté. Je me suis retrouvée tout de suite dans des séminaires de marxisme. Alors là, c'était un peu moins rigolo parce que là, j'ai commencé à toute mon envie d'apprendre et de comprendre. C'était la grosse boule qui a commencé à se faire parce que tout de suite, le problème de ce marxisme, de cette théorie qui m'était présentée sous une forme qui n'était pas qui m'allait pas, c'est-à-dire c'était très autoritaire aussi, c'était des séminaires presque alternatifs, hein, avec des
des assistants marxistes. C'était les assistants que je retrouvais à côté de moi dans les manifs, dans les assemblées, dans les comités. Mais c'était un contre-enseignement qui n'était pas non plus ce que j'aurais bien aimé. Mais à ce moment-là, je ne savais pas très bien ce que je voulais, effectivement. Donc, ce marxisme, ces cours de marxisme me sont aussi tombés dessus. Donc, moi, j'ai tout fait aussi dans les séminaires de marxisme. Ce qui fait que quand on a pu sortir dans la rue et quand on a pu trouver d'autres formes de révolte, c'est-à-dire la dérision, les grandes assemblées, les grandes assemblées où il y avait beaucoup de monde, où ça rigolait, où les chahutages, tout ça, moi j'ai pu m'exprimer un petit peu. Mais dans la théorie, dans cet arsenal théorique, ces moyens de lutte qu'on me proposait, parce que moi j'étais encore un peu jeune, j'avais 19 ans effectivement à cette époque-là, 19 ans, vu la sclérose de l'expérience et l'étouffement qu'on avait au Tessin, eh ben j'étais jeune. Effectivement, maintenant, des jeunes de 19 ans, ils ont déjà des ouvertures que nous, on n'avait pas.
Mais à l'époque, tu te dis, il y a eu enfin ces grandes assemblées, tout le monde s'est réuni. Ça, d'abord, ça a été la révolte pure, on chahutait les profs, on les faisait vider. Ensuite, il y a eu des débats, machin prenait la parole, hurlait d'un autre, coupait la parole de l'autre. Je crois que ça a été assez animé quand même, les discussions de ce moment-là. Alors, vous là-dedans, vous étiez où, Eliane et Alda? Est-ce que pour les filles, c'était facile de trouver sa place dans ce genre de débat houleux?
Ouais, c'était pas très facile, mais je crois Alda vient de dire quelque chose qui me paraît important pour comprendre 68 puis la suite, parce que il y a toujours eu, enfin il y a eu dès le départ deux espèces de lignes comme ça qui sont d'ailleurs poursuivies dans les années qui suivaient. C'était une partie, disons, et qui était plutôt masculine, qui était pour le combat, qui avait une espèce de vision de la prise du pouvoir un peu militaire en se battant et par les affrontements avec les flics et tout ça, et puis qui parlait un langage extrêmement sérieux. Et puis il y avait une autre tendance qui était en somme finalement opposée à celle-là, même si on était tous ensemble, qui était celle de l'humour. Et qui considérait que rouler dans la farine quelqu'un, c'était l'anéantir de manière peut-être plus sûre qu'essayer de se battre contre lui physiquement. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé et qu'on utilisait l'humour comme une arme qui anéantissait un certain nombre d'adversaires. Et les femmes, je crois qu'on... C'était une de nos armes favorites de tourner en ridicule quelqu'un plutôt qu'argumenter deux heures avec une espèce de langage, une langue de bois. Ah, ça, c'est l'autre histoire, c'est la langue de bois. C'est-à-dire qu'avec le recul, moi, je me dis qu'en somme, on voulait foutre en l'air cet univers qui nous oppressait, qui était immobile, qui était insupportable. Bon. Et on ne pouvait pas le faire avec les mots qui en sortaient directement. Donc on a emprunté au marxisme, on a utilisé une autre langue, mais qui était une vieille langue, pour marquer notre désaccord. Je veux dire, comme aujourd'hui, certains s'expriment en anglais. Ils ne parlent plus qu'avec des mots anglais pour dire « nous, on n'est pas d'ici, mais... L'avenir est ce qui est in, c'est la société, ce qui se réfère à l'Amérique et une certaine Amérique ou une Angleterre des punks. » Alors ils utilisent des expressions anglaises qui font que les autres ne comprennent pas très bien, mais comprennent bien qu'ils ne parlent pas la même langue. Et alors on a emprunté cette espèce de vieux langage, mais qui ne correspondait pas vraiment. Avec ces mots-là, on n'arrivait pas non plus à dire vraiment ce qu'on voulait. Parce que ça, c'était la question la plus grave, c'est ce qu'on voulait. Et puis la seule chose qu'on arrive à dire, c'est nous voulons tout de suite.
Oui, parce que quand même, vous aviez de sacrés espoirs, non? À ce moment-là, comme tu dis, ça a commencé par des sujets qui vous touchaient immédiatement, qui touchaient à l'université, au travail, à l'insertion dans la société. Puis après, ça a été très vite, la société ras-le-bol, on veut tout changer de A à Z, non? Quels étaient vos espoirs à vous, très individuellement? Je ne sais pas, moi, quand vous étiez là-dedans, qu'est-ce que très profondément vous aviez envie de faire? Alda.
Mais
ça rejoint peut-être...
Si on parle de la période de 68, c'est-à-dire c'est le moment fort, qui était vraiment le printemps 68, là-dedans, je crois que, sauf ceux qui étaient vraiment déjà des militants inscrits dans des partis de gauche, qui avaient déjà soit la pratique du syndicalisme étudiant, que moi je n'ai pas eu, parce que je suis arrivée en plein début de 68, donc j'ai eu quelques mois de syndicalisme, mais après ça a éclaté, puis c'était plus ça. Ceux qui avaient qui étaient déjà inscrits dans ce processus de la gauche, donc qui avaient placé l'université comme un terrain de lutte, de syndicalisme, de lutte, donc de réforme. Moi, j'étais absolument pas dans cette lancée-là. J'étais vraiment l'étudiante de base qui est sautée dans la brinque, qui a marché parce que ça correspondait à des cordes. Ça m'a fait vibrer quelque chose qui vibrait déjà un petit peu. Avant, parce que moi j'avais déjà participé à des manifs pour le Vietnam au Tessin, il y avait déjà j'avais déjà fait une immense lutte pour mettre les pantalons au collège, donc j'avais déjà eu des zéros de conduite pendant deux semestres de suite, trois trimestres, donc j'avais mené une lutte exemplaire, seule contre tous au collège, parce que je mettais les pantalons et puis d'une couleur qui provoquait, donc j'avais déjà l'impression, moi j'avais déjà l'impression personnellement d'être déjà quelqu'un très, très révolté aussi et assez libre dans mes comportements. Mais quand je suis arrivée à Genève, je me suis rendu compte que c'était rien par rapport à ce qui était en train de mûrir et par rapport aux personnages que je rencontrais dans la faculté, etc. C'est-à-dire que je voyais des gens qui avaient peut-être aussi quelques années de plus, mais qui avaient déjà fait un bout de chemin. Ils